Chapitre 2. Separate Lives. C'est épouvantable d'être seul quand on a été deux. Paul Morand. Jonathan envoya le premier SMS. J'ai votre téléphone. Vous avez le mien ? Jonathan l'Empereur. Auquel Madeleine répondit presque instantanément. Oui, où êtes-vous ? Madeleine Green. À San Francisco. Et vous ? À Paris. Comment fait-on ? La poste, ça existe en France, non ? Je vous renvoie le vôtre dès demain, par FedEx. Trop aimable ? Je fais de même dès que possible. Quelle est votre adresse ? Restaurant French Touch, 1606 Stockton Street, San Francisco, Californie. Voici la mienne. Le jardin extraordinaire, 3 bis rue de Lambre à Paris, dans le 14e. Vous êtes fleuriste, n'est-ce pas ? Si oui, vous avez une commande urgente d'un certain Oleg Mordorov. 200 roses rouges à livrer au théâtre du Châtelet pour l'actrice qui se déshabille dans le 3e acte. Entre nous, je doute que ce soit sa femme. De quel droit avez-vous écouté mon répondeur ? Mais pour vous rendre service, espèce d'andouille. Je vois que vous êtes aussi rustre dans vos messages que dans vos paroles. Alors, vous êtes restaurateur, Jonathan ?
Oui.
Dans ce cas, votre boui-boui compte une nouvelle réservation. Une table pour deux personnes demain soir au nom de Monsieur et Madame Strachowski. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans leur message, mais la réception était mauvaise.
Très bien. Bonne nuit.
À Paris, il est 7h du matin. Jonathan secoua la tête avec agacement et glissa le téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Cette femme l'horripilait. San Francisco, 21h30. Une antique 4L Renault rouge vif quitta la Nationale 101 pour prendre la sortie qui menait à Downtown. La vieille guimbarde se traînait comme un veau sur l'embarcadéro, donnant l'impression de rouler au ralenti. Le chauffage avait beau être poussé à son maximum, les vitres dégoulinaient de buée. « Tu vas nous envoyer dans le décor avec ton tas de ferraille !» se plaignit Jonathan, tassé sur le siège passager.
« Mais non, elle ronronne, ma titine !»
se défendit Marcus.
« Si tu savais comme je la bichonne !»
Cheveux collés et hérissés, sourcils broussailleux, barbe de 18 jours et paupières tombantes à la droupie, Marcus paraissait téléporté d'une autre époque, la préhistoire, voire certains jours d'une autre planète. Flottant dans un pantalon baggy et une chemise hawaïenne ouverte jusqu'au nombril, sa silhouette rachitique semblait avoir été contorsionnée et disloquée pour tenir dans l'habitacle de la voiture. Chaussé d'une vieille paire de tongs, il conduisait avec un seul pied, le talon posé sur l'embrayage et les orteils écrasant successivement l'accélérateur et la pédale de frein.
« Moi, je l'aime bien la voiture, donc le Marcus !»
s'enthousiasma Charlie en gigotant sur le siège arrière.
« Merci, petit mec !»
répondit-il en lui adressant un clin d'œil.
« Charlie, boucle ta ceinture et arrête de t'agiter dans tous les sens !»
ordonna Jonathan. Puis, se tournant vers son ami,
« Tu es passé au restaurant cet après-midi ?»«
On est fermé aujourd'hui, non ? » ?»«
Mais tu as pris livraison des canards, au moins. »«
Quel canard ?»«
Les cuisses de canard et la roquette que nous livre Bob Woodmark tous les vendredis. »«
Oh, je me disais bien que j'avais oublié un truc. »«
Bougre de grande bourrique !» s'énerva Jonathan. « Comment peux-tu oublier la seule chose à laquelle je t'avais demandé de penser ?»«
Ce n'est pas dramatique non plus, » maugréa Marcus.
« Si, justement, même si Woodmark est imbuvable, sa ferme nous fournit nos meilleurs produits. Si tu lui as posé un lapin, il va nous prendre en grippe et ne voudra plus de nous comme clients. Fais un détour par le restaurant. Je parie qu'il a laissé sa cargaison dans l'arrière-cour. »«
Je peux voir ça tout seul, » assura Marcus.
« Je vous ramène d'abord à la maison. » »«
Non !»
le coupa Jonathan.
« Tu n'es qu'un train de savates sur qui on ne peut pas compter. Donc, je vais prendre les choses en main. »«
Mais le petit est crevé. » »«
Non, non !» se réjouit Charlie. « Je vais aller au restaurant, moi aussi. »
« Comme ça, c'est réglé, » trancha Jonathan. « Prends l'embranchement au niveau de la 3e rue, » ordonna-t-il en essuyant avec sa manche la buée qui se condensait sur le pare-brise.
Mais la vieille 4L n'aimait pas être bousculée dans son itinéraire. Ses pneus étroits manquaient d'adhérence et le changement brutal de direction faillit provoquer un accident.
« Tu vois bien que tu ne contrôles pas cette boue !»
cria Jonathan.
« Putain, tu vas nous tuer !»«
Je fais ce que je peux !» assura Marcus en redressant le volant dans un concert de klaxons exaspérés. Tout en remontant Kearney Street, le taco retrouva un semblant de stabilité.
« C'est parce que tu as revu ma sœur que tu es dans cet état-là ?»
demanda Marcus après un long silence. « Francesca n'est que ta demi-sœur, » corrigea Jonathan.
« Comment va-t-elle ?»
Jonathan lui jeta un regard hostile. « Si tu crois qu'on a fait la causette... » Marcus savait que le sujet était sensible et n'insista pas. Il se concentra sur sa conduite pour rejoindre Columbus Avenue et garer sa titine devant une brasserie portant l'enseigne French Touch, à l'angle d'Union Street et de Stockton Street. Comme Jonathan l'avait deviné, Bob Woodmark avait laissé sa cargaison à l'arrière du restaurant. Les deux hommes empoignèrent les cageots pour les entreposer dans la chambre froide avant de vérifier que tout était en ordre dans la salle principale. French Touch était un bout de l'hexagone au cœur de North Beach, le quartier italien de San Francisco. Petit, mais chaleureux, l'endroit reproduisait l'intérieur d'un bistrot français des années 1930. Boiseries, moulures, sol en mosaïque, immense miroir belle époque, vieilles affiches de Joséphine Baker, Maurice Chevalier et Mistinguette. L'établissement proposait une cuisine française traditionnelle, sans prétention, sans chichi. Sur l'ardoise accrochée au mur, on pouvait lire « Feuilleté d'escargot au miel, magret de canard à l'orange, tarte tropézienne. »
« Je peux avoir une glace, papa ?»
demanda Charlie en s'installant devant le zinc rutilant qui trônait le long de la salle.
« Non, chérie. Tu en as mangé des kilos dans l'avion. Et puis, il est très tard, tu devrais déjà être au lit depuis longtemps. »«
Mais c'est les vacances !»«
Allez, John, sois cool !» demanda Marcus.
« Oh non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi !»«
Mais c'est Noël !»
Deux gosses ne put s'empêcher de sourire Jonathan. Il prit place au bout du restaurant, derrière le comptoir de la cuisine ouverte qui permettait aux convives de suivre en partie la préparation des plats.
« Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» demanda-t-il à son fils.
« Une dame blanche !»
s'enthousiasma le gamin. Avec dextérité, le cuistot cassa quelques carrés de chocolat noir dans une petite jatte pour les faire fondre au bain-marie.
« Et pour toi ?» demanda-t-il à Marcus.
« On pourrait ouvrir une bouteille de vin ?»«
Si tu veux. »
Un large sourire éclaira le visage de Marcus. Il quitta son siège avec entrain pour rejoindre son lieu de prédilection, la cave du restaurant. Pendant ce temps, sous le regard gourmand de Charlie, Jonathan disposa dans une coupe deux boules de glace à la vanille, accompagnées d'une meringue. Une fois le chocolat fondu, il y incorpora une cuillère de crème fleurette. Il versa le chocolat chaud sur la crème glacée et recouvrit le tout de chantilly et d'amandes grillées.
« Enjoy !»
dit-il en piquant une petite ombrelle sur le dôme de crème. Le père et le fils s'installèrent à une table, assis côte à côte sur une banquette moelleuse. Des étoiles dans les yeux, Charlie s'arma d'une longue cuillère et commença sa dégustation.
« Vise un peu cette merveille !»
s'enflamma Marcus en revenant de la cave.
« Un Screaming Eagle 1997 ? Tu délires ou quoi ? Ce genre de bouteille est réservé aux clients ?
Allez, ce sera mon cadeau de Noël » implora-t-il.
Après une résistance purement formelle, Jonathan accepta d'ouvrir le grand cru. À tout prendre, mieux valait que Marcus boive quelques verres au restaurant. Il pourrait au moins garder un œil sur lui. Dans le cas contraire, le Canadien risquait d'entamer une tournée des bars et, lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool, les catastrophes avaient vite fait de s'enchaîner. À plusieurs reprises, certains de ses compagnons de beuverie avaient profité de sa gentillesse et de sa crédulité pour le plumer au poker et lui faire signer des reconnaissances de dette fantaisistes que Jonathan avait eu ensuite toutes les peines du monde à récupérer.
« Admire la couleur de ce nectar !» s'extasia Marcus en versant le vin dans une carafe pour le faire décanter.
Enfant illégitime du père de Francesca et d'une chanteuse de country québécoise, Marcus n'avait pas touché un centime lors du décès de son géniteur, un riche homme d'affaires new-yorkais. Sa mère était morte depuis peu et il n'entretenait que des relations très lointaines avec sa demi-sœur. Fauché comme les blés, il vivait dans une bulle d'insouciance, indifférent à son apparence physique, ignorant le béaba de la bienséance et des règles de vie en société. Il dormait 12 heures par jour, donnait ponctuellement un coup de main au restaurant, mais les contraintes de l'existence et les horaires de travail semblaient ne pas avoir de prise sur lui. Gentiment foldingue, aussi simple et qu'attachant, il avait quelque chose de pathétique et de désarmant, même si les conséquences de son irresponsabilité étaient épuisantes à gérer au quotidien. Tout le temps qu'avait duré son mariage, Jonathan n'avait vu en Marcus qu'un crétin avec qui il n'avait rien à partager. Pourtant, lorsque Francesca l'avait quitté, son beau-frère avait été le seul à le soutenir. À l'époque, malgré Charlie, Jonathan s'était laissé glisser dans le trou noir de la dépression. Désœuvré et désemparé, il avait sombré dans son chagrin, fréquentant d'un peu trop près messieurs Jack Daniel et Johnny Walker. Heureusement, par un étrange miracle, Marcus avait mis sa flémardise entre parenthèses et, pour la première fois de sa vie, avait pris les choses en main. Il avait repéré un restaurant italien fatigué qui venait de changer de propriétaire et s'était démené pour convaincre les repreneurs de transformer l'endroit en bistrot français et d'en confier les fourneaux à son beau-frère. Cette initiative avait permis à Jonathan de reprendre pied. À peine avait-il senti son ami sauvé que Marcus était retombé dans sa flémingite aiguë. « À la tienne !» lança-t-il en tendant à Jonathan un verre de vin. « Donc, c'est Noël avant l'heure !» conclut le Français en allumant le poste de radio Art Déco qu'il avait récupéré dans un marché aux puces de Pasadena. Il régla l'appareil sur une station rock qui diffusait une version live de Light My Fire. « Oh, c'est bon, ça !» s'extasia Marcus en se calant au fond de la banquette sans que l'on sache s'il parlait du cabernet ou de la musique des Doors. Jonathan essaya à son tour de se détendre. Il déboutonna le col de sa chemise et tomba la veste. Mais la vue du téléphone de Madeleine posé sur la table le contraria. « Cette histoire de portable va me faire perdre des réservations » soupira-t-il. Parmi ses clients réguliers, certains avaient en effet son numéro personnel, un privilège qui leur permettait d'obtenir une table même les soirs de rush. Tandis que Marcus se saisissait de l'appareil, Jonathan regardait son fils qui s'endormait doucement sur la banquette. Il aurait aimé prendre une dizaine de jours de vacances pour mieux s'occuper de Charlie, mais il ne pouvait pas se le permettre. Il était tout juste sorti du gouffre financier qu'il avait presque englouti quelques années plus tôt, et cette débâcle avait eu le mérite de le vacciner contre les crédits, les découverts, les impayés et autres pénalités de retard. Lessivé, il ferma les yeux et Francesca lui apparut telle qu'il l'avait croisée à l'aéroport. 2 ans après, la douleur était toujours aussi vive, presque insoutenable. Il ouvrit les yeux et prit une gorgée de vin pour chasser son image. Il n'avait pas la vie qu'il avait espérée, mais c'était la sienne. « Eh, pas mal, la nana !» s'exclama Marcus, tandis que ses doigts graisseux glissaient sur l'écran tactile pour faire défiler les photos que contenait le cellulaire. Intrigué, Jonathan passa une tête par-dessus l'écran. « Fais voir !» Parmi les clichés de la jeune femme, certains étaient gentiment érotiques. Des poses suggestives, immortalisées en noir et blanc. Dentelles fines, jartelles en satin, mains relevées, cachant pudiquement un sein ou effleurant le galbe d'une hanche. Rien de bien méchant à l'heure où certains mettaient en ligne leur sextape sur le web. « Je peux voir, papa ?» demanda Charlie en sortant de son sommeil. « Non, rendors-toi, ce n'est pas pour les enfants. » Surprenant tout de même qu'avec son air pincé de pain bêche bon chic bon genre, la peste de l'aéroport avait fait elle aussi sa petite séance de pause coquine. plus étonné qu'émoustillé, Jonathan zooma sur le visage du modèle. En apparence, elle s'amusait, se prêtant au jeu de bonne grâce. Mais derrière le sourire de façade, on devinait une certaine gêne. Sans doute, ce genre de cliché était-il plutôt le type de son mec, qui s'était pris l'espace d'un instant pour Helmut Newton. Qui était derrière l'appareil? Son mari? Son amant? Jonathan se souvenait d'avoir aperçu un homme à l'aéroport, mais il était incapable de se rappeler sa tête. « Bon, allez, ça suffit », trancha-t-il en reposant le téléphone sous le regard déçu de Marcus. Se sentant soudain voyeur, il se demanda de quel droit il fouillait dans la vie privée de cette femme.
« Comme si elle allait se gêner pour faire pareil », lui fit remarquer le Canadien.
« Je m'en contrefous. Il n'y a aucun risque qu'elle trouve ce genre de photo dans mon téléphone », s'exclama-t-il en se servant un verre de Screaming Eagle. « Si tu crois que je me suis déjà amusé à prendre Popol en photo... »
Le cabernet avait des connotations exquises de fruits rouges et de pain d'épices. Tout en dégustant le breuvage, Jonathan recensa mentalement ce que contenait son téléphone portable. À vrai dire, il ne s'en souvenait plus du tout.
En tout cas, rien d'intime ni de compromettant, se rassura-t-il.
Ce en quoi il se trompait totalement.